Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien, nous recevons l'artiste Denis Nadeau pour son art visuel mêlé à la littérature d'Alain Labonté pour un ouvrage qui s'appelle « Un jour, ma tête a plié mes genoux ». On en parle dans un instant. Ensuite, en deuxième partie d'émission, bien Denis Martin Chabot est avec nous. Bonjour Denis Martin.
Salut.
Et tu vas nous présenter dans ta chronique Arc-en-Ciel, dans laquelle tu vas nous parler de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu
la campagne
17,
qui s'en vient avec ça,
le 17 mai. Oui. Voilà. Donc pour l'instant, on part en musique avec Harry Styles qui nous chante « As it was ».
Exactement.
Et voilà, donc nous sommes maintenant en ligne avec Denis Nadeau. Bonjour Denis.
Oui, bonjour Madame Farah.
Bonjour, vous pouvez m'appeler Arlette. Voilà,
bon, ouais.
Donc on va parler de votre art visuel, de tout ce que vous avez fait, qui a été aussi, comme je le disais tout à l'heure, mêlé à la littérature d'Alain Labonté pour cet ouvrage qui s'appelle « Un jour, ma tête a plié mes genoux ». Et je me suis rendu compte aussi que c'était vous qui avez proposé, c'est de vous qui est venue la proposition de ce livre, de cet ouvrage?
Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Alain, c'est un ami
de longue date.
De longue date, ça, qui était à la maison. Puis, Alain publie des livres. Moi, j'en ai fait plusieurs de mon côté. Puis, je disais, ce serait intéressant éventuellement qu'on produise un livre ensemble. Et puis, il a attrapé la balle au bon, puis il a dit... En fait, c'est lui qui a proposé de le faire pour les impatients. On avait juste l'idée de faire un livre ensemble, mais...
Pour la maladie mentale.
Pour la maladie mentale, c'est ça. En fait, les impatients, c'est un organisme qui vient en aide à des gens, justement, qui souffrent un peu du trouble de l'émotion. Et puis, on amasse des sous pour eux, en fait, pour le venir en aide, mais tu sais, en fait, c'est l'art, un peu, c'est un peu comme un moyen de guérir la personne, en fait, puis de la soutenir, puis de l'encourager dans son développement personnel.
Bien sûr, parce que quand on... c'est pas la première fois que je reçois quelqu'un pour en parler, des impatients, et il y a un gros pourcentage de personnes qui, quand elles suivent ces cours, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art, visuel, etc., de plein de choses, qui s'en sortent bien mieux, quoi, qui ont une amélioration très nette.
Oui, ben en fait, moi, je ne suis pas tellement au courant de l'organisme. J'ai participé régulièrement par des dons, mais je n'ai pas vraiment assisté à des ateliers ou je n'ai pas fait de suivi avec oui. les gens personnellement.
Il faut, c'est
Alain. Alain s'en occupe.
Oui, il s'en occupe. Oui.
Une bonne partie de sa vie. Là. C'est son travail à lui. En fait.
Pour finir là-dessus, tous les profits de ce livre, je parle aux auditrices et aux auditeurs, quand vous l'achetez, seront versés aux impatients de Drummondville. Voilà.
Oui, absolument.
Donc, il faut le dire aussi. Vous dites dans une vidéo que j'ai vue de vous, puis j'ai regardé ce que vous faites, vous dites que vous avez mal à l'humanité.
Ouais.
Alors j'aimerais des explications là-dessus.
Ouais. Ben, en fait, moi, depuis la tendre enfance, en fait, j'ai toujours été assez mélancolique dans ma vie. J'ai 61 ans aujourd'hui. Je me suis
retiré bon
à la
anniversaire.
Campagne. Ben, pas aujourd'hui, là, je veux dire maintenant.
Ah, d'accord.
C'est très jeune, dernier. 61 ans, vous savez.
Oui, c'est Denis Martin, notre chroniqueur, qui est avec nous.
OK, bon, ben, salutations. Et puis, c'est ça, en fait, j'ai toujours été mélancolique. Puis, il y a 6 ans, j'ai toujours été artiste, depuis que j'ai 16 ou 17, 18 ans, mais dans l'âme, c'est depuis l'enfance. Puis, j'ai toujours travailler sur des sujets, parce que j'ai toujours été figuratif, mais des sujets qui pouvaient être assez tristounets. J'ai toujours carburé à la mélancolie. Et puis, c'est ça, le mal des autres, moi, j'ai ça. En fait, je soulignais une citation un peu de Jacques Brel qui dit qu'il y a deux types d'artistes. Il y a ceux qui ont mal aux autres, puis ceux qui n'ont pas mal aux autres. En fait, je fais certainement partie de cette catégorie-là. Et puis, il y a 6 ans, ben, je me suis retiré sur une terre. J'ai acheté une belle grande terre, 105 acres, puis c'est la nature ici. Puis, tu sais, je me rends compte qu'on a beau être bien entouré par la belle nature, les beaux paysages, mais tiens, tous les matins, quand je me réveille, dès qu'on tourne un petit peu notre attention vers les informations, je trouve que, en fait, moi, ça me donne un peu de mal à vivre. Puis je pense que les gens en général, on est à peu près tous dans cette situation-là. Je sais pas vous, là, mais...
Oui, aussi. Et puis, j'ai été interpellée par une de vos questions qui était sur l'assujettissement de l'homme par l'homme. J'ai trouvé ça fort intéressant. Voilà.
Ouais, ben, en fait, moi, j'ai déjà été attiré par les témoins de Jéhovah. Là. C'est une petite capsule que j'ouvre comme ça, là, puis j'en suis ressorti. Mais c'est ça, en fait, en tout cas, je l'ai connu là-dedans beaucoup. Là, l'homme domine l'homme un peu à son détriment.
Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est beaucoup. Hein, on se surveille l'un l'autre.
C'est
une société, c'est un groupe très... on ne peut pas penser par soi-même. C'est vraiment une secte religieuse, une secte tout court très...
Ben, en fait, c'est un peu comme si le catholicisme en curait de 75 ans à l'arrière.
Là. Oui, c'est vrai. Tout à fait.
On veut savoir ce qui se passe dans toutes les maisons, puis ça, c'est quand même assez...
Mais moi, ce qui m'interpelle dans votre démarche est le simple fait de se dire que oui, le matin, on se lève, puis dès qu'on entend les nouvelles, ça fait mal. Effectivement, moi, je dois dire que j'ai travaillé 33 ans presque à Radio-Canada. Et depuis quelques années, d'abord, je n'ai plus le câble à la maison, je ne regarde plus les infos à la télévision, et j'étais là tous les jours. Et même le matin, parfois, je commence à écouter les infos, je dis « Ah non, ça ne me le tente pas ce matin », et je m'en vais à la musique. Et je ne me reconnais plus, Je pense qu'on a... je suis comme vous, à un moment donné, je me dis « Ah non, c'est trop là, je n'ai assez entendu pour le moment là ».
OK. Mais moi, remarquez, je connais pas votre antenne, mais vous êtes une antenne un peu plus positive, joyeuse ou...
Cette émission-là va à tout ce qui est coup de cœur.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est autrement, mais c'est juste parce que j'avais un intérêt à vous recevoir. J'ai donc le livre sous la main, j'ai regardé comment c'était fait, parce que il y a des parce que vous faites aussi vous êtes sculpteur, vous êtes photographe, vous faites de l'art dans toute sa dimension. Et en même temps, vous avez eu, je présume que ce qu'on voit là, ce qui a été fait, et puis les photos aussi qui sont prises en plus, c'est vous qui les avez gérées, créées, imaginées.
Oui. En fait, j'ai créé, il y a quelques sculptures à l'intérieur. Là.
Oui.
Des sculptures quand même de haute dimension. Là.
Oui, j'ai vu ça.
12 pieds de haut, là. C'est des grandes bûches de chêne qui font peut-être à peu près 4 pieds sur la souche. Mais c'est ça, il y a quelques sculptures, puis j'ai créé aussi, je vous dirais, un peu des petites mises en scène là, tu sais, qui est d'objets. C'est un peu des ready-made, si on peut dire. Ou des fois, j'y ai participé. Alors, de ma main, là, mais qui crée des quelques mises en situation qui peuvent porter à réflexion. Là, tu sais.
Alors, il y en a une. Alors, attendez, il y en a une, parce que moi, j'en ai deux auxquelles j'ai des questions à poser, parce que même sur les autres, mais je vais parler de la première, puisqu'il y a Alain dessus, donc qui est de dos avec les ailes qui lui sont dessinées dans le dos. Et oui. Pourquoi toutes ces cartes de tarot qui l'entourent?
OK, ben ça, c'est un peu, pour moi, là, c'est un peu la superstition. Là, on se tourne les petits éléphants, les petits porte-chance, les porte-bonheur. Des fois, on continue à ces trucs-là. Puis, c'est sûr, ben, je pense que c'est, pour moi, ça peut être un piège, mais c'est un choix aussi en même temps. Là, mais c'est... En fait, mais j'ai pas de réponse dans mes trucs. Hein,
ah oui, c'est une manière de faire réfléchir l'autre, peut-être d'une manière différente de la vôtre.
L'artiste pose souvent les questions et puis c'est à nous de trouver les réponses. Si on a des réponses à trouver, parce que parfois, il n'y en a pas de réponse.
Ou peut-être vous nous allumez suffisamment pour nous poser d'autres questions.
Avant que t'aies à ta photo, moi, il y en a une autre qui m'a interpellé. C'est de toute évidence un homme qui semble danser en talons hauts. Et j'ai beaucoup aimé cette photo parce que pour moi, il y avait une certaine joie qui ressortait d'être qui je suis.
Sur le jeu, là.
Oui.
Oui, la Marelle.
La Marelle, voilà.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment, ça m'a interpellé, ça. J'ai trouvé ça. Ben, moi, tu vois, j'avais l'impression qu'il dansait sur la Marelle. Alors, c'est un peu le.
Oui, ben, c'est ça. Ben, c'est un adulte, là, mais c'est un jeu d'enfant. Tu sais,
oui.
Puis des fois, on a des aspirations dans la vie. La vie, c'est peut-être pas toujours le but qu'on espérait. T'sais. C'est peut-être pas toujours ce qu'on voulait, mais peut-être que des fois, on a moyen aussi de se réaffirmer, de reprendre possession de nos moyens, puis de se donner une nouvelle direction dans la vie.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas.
En tout cas, c'était.
C'est juste des petits flashs. J'ai pas une grande. Nécessairement une grande réflexion autour de ces œuvres-là, mais je me dis, en mettant en opposition, puis en juxtaposition des éléments comme ça, ben, il y a toujours moyen de se créer sa propre histoire.
Ben, on va continuer.
C'est pas la mienne qui est la bonne.
On va continuer à en parler. On va faire une petite pause musicale, Denis, puis on revient tout de suite avec vous. Donc, on va partir avec Yannick Boivin qui nous chante Dans ma tête.
Tu sors pas de ma tête et je veux pas que ça. Disparaître
Et nous voici de retour avec Denis Nadeau. Alors Denis, dans ce livre aussi, il y a un endroit qui m'a vraiment mis, je ne sais pas si c'est mal à l'aise ou c'était à la fois, je ne sais pas ce que j'ai compris dedans, je vais vous l'expliquer. Donc c'est là où on voit un décor d'un verre absolument magnifique. Avec un personnage, oui. Avec un personnage avec les bras en croix, même qu'un seul bras, mm-hmm. on va dire, en croix.
Ouais, bah, y en a un qui, on le voit peut-être un peu.
On le voit un peu effacé. Ouais. Et puis cette espèce de clé qui est mise dans le ventre au niveau du plexus. Et là, un bijou merveilleux qui pend avec des couleurs fabuleuses. Et là, je me posais la question.
Ben, en fait, moi, j'ai voulu représenter une femme inuite. Et puis le bijou qui est dans le milieu, en fait, c'est un chapelet, c'est un...
La religion. En fait,
c'est la religion, c'est planté dans le ventre de la femme inuite.
Ah oui, oui,
comme
oui.
Comme une épée. C'est ça, on voit aussi, il y a beaucoup de petites perles, mais ça, c'est les perles du chapelet.
D'accord.
En fait, mais là, les bras en croix, puis elle est submergée par l'eau. Puis c'est une sculpture que j'ai faite en argile et puis en plexiglas, ou je ne sais pas comment on appelle ça, en résine.
La couleur est magnifique.
Oui, mais c'est ça, ben, c'est encore là aussi, c'est la croix. C'est, je pense qu'on a assassiné les Premières Nations avec notre religion. Là.
C'est sûr.
Ouais. Ben, en fait, moi, c'est ça, je questionne le religieux, je questionne le politique. C'est dans ces eaux-là que je me promène.
Alors, comment s'est passé dans l'écriture? Est-ce que Alain écrivait et ça vous inspirait, ou c'est de vos sculptures qu'est né le texte, ou comment ça s'est passé?
En fait, on a travaillé un peu comme enchâssé, croisé, parce qu'Alain a écrit un texte, puis il a raconté une histoire de quelqu'un qui est peut-être, en fait, qui a eu certainement des troubles, mais c'est une histoire fictive de toute façon, mais qui l'a amené peut-être à réfléchir sur la maladie mentale.
Oui.
Puis moi, de mon côté, j'ai plutôt élaboré des sujets qui peuvent porter quelqu'un, en fait, tourner quelqu'un vers ça. T'sais. Qu'est-ce qui est lourd dans la vie? Qu'est-ce qui m'atteint personnellement? J'ai travaillé là-dessus personnellement.
D'accord.
En fait, je me considère d'une certaine façon comme un impatient. Sauf que moi, j'utilise l'art. C'est pas nécessairement comme une forme de thérapie. En fait, je pense pas. C'est quelque chose d'un devoir pour moi d'exprimer des choses que je n'aime pas, mais qui, de toute façon, vont m'envahir pareil. Tu
sais. Ah oui, parce
mais
que...
Mais c'est des choses que j'aime partager avec le monde qui m'entoure. Moi, je me dis, là, je ne veux pas changer l'art parce que je pense que je change l'art d'une certaine façon, mais je ne veux pas le faire pour changer l'art, mais j'aimerais le faire pour changer la vie. Je sais que c'est quand même une mission grosse et impossible, mais c'est dans ce sens-là que je travaille. Ouais.
D'accord. Je crois que tu avais une question, Denis
Martin. En fait, moi, je suis intrigué parce que j'ai l'impression, ce que j'ai compris, on doit commencer le livre à la fin, il s'ouvre de l'autre côté. Est-ce que je me trompe ou on peut le lire de la façon habituelle?
Des deux côtés.
Il ouvre par la fin. Tu sais. C'est, moi, je trouve que je voulais faire quelque chose de renversant.
C'était tout à fait, c'est réussi.
un concept, là, mais ça nous renverse, mais quand on est renversant, on trouve la vie, c'est déjà ça. Déstabilise peut-être un peu le lecteur, là, de commencer par la page de la fin. T'sais. C'est quand même quelque chose aussi à monter avec la graphiste Sylvie Larivière qui a fait un travail extraordinaire. Mm-hmm. En tout cas, ça a l'air peut-être simple comme ça quand on le voit, là, mais de travailler à l'envers, c'est quelque chose.
Ah, puis il y a une
photo aussi qui est assez parlante. Des menottes que l'on met des fois pour le plaisir sexuel qui entoure une mains qui prient.
Mm-hmm. Ouais.
Et de l'autre côté, il y a un sexe d'homme, et je trouve que c'est
un god Michet.
Ah, c'est un god Michet.
Oui.
D'accord, ok. Ouais, alors moi, j'ai vu que ça.
On m'avait parlé de dildo à un moment donné.
Le dildo, c'est la version anglaise de god Michet, mais on dit beaucoup plus dildo au Québec, d'ailleurs, je dois dire.
D'accord.
Ouais. OK. Mais c'est ça, moi, c'est la première fois que j'allais dans un sex shop de ma vie. Moi. Je suis allé m'approvisionner là, c'est ça.
Et là, il y a des images qui sont bouleversantes, avec les textes aussi par-dessus. Alors là, l'histoire du cœur... au milieu là de la main qui tient le cœur et puis de la main qui est du visage qui est renversé parce que frappé. Mm-hmm. En tout cas.
OK, là, j'essaie de le figurer, celle-là. Je n'ai pas mon livre devant moi, mais c'est, oui. c'est la page couverture.
À la page 28, non, c'est en plein milieu. C'est la page où il y a le cœur, il y a un cœur qui pend là dans les fils.
C'est attaché par des fils électriques, je crois, oui.
Puis d'un autre côté, il y a une sculpture. La sculpture est faite avec la main qui tient un cœur. Puis de l'autre côté, un visage.
Non, il tient. En fait, c'est deux parties d'une tête.
Ah, c'est deux parties d'une tête.
Ouais, c'est
alors moi, dans mon imaginaire. D'accord.
Moi, j'ai coupé la tête en deux. C'est une tête que j'ai sculptée. Puis j'ai travaillé un cœur. Puis le cœur devait aller dans la tête, là, mais.
Okay.
En le fragmentant comme ça, j'ai décidé plutôt de le suspendre. Tu sais,
comme quoi, avec ce que vous faites, chacun prend son... chacun imagine ce qu'il veut dessus.
Oui, c'est ça. Mettons. Par exemple, si je peux vous donner un exemple,
oui?
Il y a une sculpture que j'ai faite, LGBTQ2+, je ne sais pas trop, 3XYZ, mais j'ai deux femmes qui s'enlacent.
D'accord.
Elles sont prisonnières d'une cage de métal. Mais en fait, mes sculptures aussi, je les peins toutes en couleur pastel parce que c'est comme si un peu je voulais donner moins d'impact à mes. Je veux alléger un peu le sujet, là, ça. Mais c'est en. Les deux femmes qui s'enlacent sont suspendues à l'envers, à l'intérieur aussi d'une bûche. Puis ils ont des flèches, une douzaine de flèches qui sont projetées sur les deux femmes. Mais c'est ça, bon, ben, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui.
Je vois, là.
Pour qui ça peut dire que qui pourrait être un peu contre le fait la communauté LGBTQ ou en fait
voilà.
Mais moi ce que j'ai cherché pour exprimer c'est comment est-ce qu'on peut se sentir quand on fait partie d'une minorité comme ça là,
oui. Tout à fait.
Moi c'est ce que j'ai compris en regardant cette photo. Oui.
En tout cas, on arrive à la fin de l'entrevue.
Déjà.
Denis Nadeau, et oui.
Ben,
malheureusement.
Parce que j'en fais pas souvent, j'ai bien aimé ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, vous avez fait quelque chose avec Alain, vous avez fait quelque chose de magnifique. Hein. Vraiment bravo.
Ben, merci beaucoup. Puis les gens sont bienvenus aussi s'ils veulent venir. J'ai peut-être une seconde. Le lancement a lieu demain à la maison
de Drummondville.
La culture de l'avenir.
Oui.
De l'avenir, c'est tout près de Drummondville.
Oui.
Et puis si les gens veulent avoir peut-être un petit aperçu de ce que je fais, s'ils écrivent mon nom, Denis Nadeau, sur YouTube. On voit une sculpture en bleu pâle, c'est une sculpture de Donald Trump, un petit bleu Vierge Marie.
Oui.
Ben, les gens vont pouvoir voir un petit peu, c'est une petite vidéo qui dure 2,45 minutes.
Et qui est très intéressant, j'ai regardé ça et merci de me l'avoir envoyé.
Merci, c'est bien agréable.
Merci.
Denis, à la prochaine.
Donc. Bonne continuation en tout cas.
Merci, c'est bien gentil. Je commence à sculpter un poutine en grenade.
On attend de le voir. À bientôt.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir.
Quand je l'ai vue danser, elle était la plus belle. J'ai dû trop hésiter avant de lui parler, il se faisait tard. On s'est quitté trop tôt, mais on a échangé nos numéros. Depuis je compte les heures, j'attends des nouvelles, j'attends qu'elle toujours rien.
Et voilà, donc restez avec nous puisque dans la prochaine demi-heure, on est avec Denis Martin Chabot. La chanson qu'on vient d'entendre, c'était Joanie Benoît en duo avec Maxime Magro qui nous chantait « L'appel ». Et là maintenant, c'est avec toi, Denis Martin. On va être dans ta chronique arc-en-ciel dans un instant. Alors, suivez-nous et puis on se retrouve tout de suite après ça.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Swing open the door. Is there something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say find the way, but me I say come in. So I smile a little too much, and the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Yes, I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes just like the rest of us.
Alors, on vient d'entendre Lou Doillon qui nous chantait Too Much. Musique.
I definitely remember getting hit here.
He was killed because he was dressed in female wear.
Yo recibí 6 impactos de bala.
Oh, I'm so scared of a fucking lesbian.
No. Yes.
These homophobic crimes and bring the attackers
Russian
to justice.
Police detained as many as 30 gay rights activists who took part in an unsanctioned rally.
Ils disent qu'il faut que je meure, que je crève. Tout ça parce que je suis lesbienne, en fait.
Oh.
Elle a commis l'irréparable. Elle s'est enlevée la vie il y a une semaine. Sexual identity and bullying
play a part in their deaths. Alors là, Denis Martin, on vient d'entendre les premières secondes d'une vidéo qui a été produite par la Fondation Émergence à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et là, c'est des images qui sont choquantes, qui sont violentes, parce qu'on voit quand même des gens se faire frapper, se faire battre à cause de leur orientation sexuelle ou de leur affirmation de genre. Et dans ta chronique Arc-en-Ciel, donc, on va parler de la campagne de la Fondation Émergence, justement à cette occasion.
Oui, en fait, c'est une campagne. On est habitué, hein, la Fondation Émergence, depuis maintenant au moins 15-20 ans, nous fait des campagnes de sensibilisation surprenantes.
Oui.
Je peux vous rappeler, en fait, chaque année, pendant la journée, pour cette journée mondiale, on fait ça. Rappelez-vous, peut-être que tu n'étais pas à Montréal à l'époque, mais il y a eu une campagne où on voyait deux joueurs de hockey s'embrasser.
Ah oui, non,
et ça, ça a été une campagne qui a vraiment déplu. Ou un autre, c'était un petit bébé, et ça disait « assigné hétéro » sur le pied du petit bébé. Oui. Alors, cette fois, la Fondation Émergence, puis ça fait quand même un bout de temps là, qu'on nous parle des violences et de l'intolérance dans le monde. Puis Dieu sait que ça ne s'améliore pas présentement avec la montée du populisme d'extrême droite. Et c'est pas maintenant uniquement Donald Trump. On le voit ailleurs dans le monde. Poutine, c'est un bel exemple aussi. Alors, cette fois, la Fondation donc, nous propose une vidéo qui commence avec une série de séquences où on voit des personnes des communautés de LGBTQIA plus se faire attaquer. La première image, c'est un militant pour les droits des personnes gays qui reçoit un coup de poing au visage. On le voit, là, il se fait attaquer. On voit des gens ensanglantés. On voit une mère éplorée devant la boîte de nuit. Rappelez-vous, Pulse à Orlando en 2016, où 49 personnes de nos communautés ont été tuées par un tireur fou. Et elle craint, elle se demande est-ce que son enfant est là. On ne connaît pas le reste de l'histoire. L'intolérance, Arlette, tue. L'intolérance écourte des vies. Et la Fondation Émergence a eu une idée fantastique pour illustrer tout ça. Je vais en reparler un peu plus tard. Mais avant, on va écouter son président, Patrick Desmarais, nous expliquer le pourquoi de la campagne.
Allez, on l'écoute.
Bien, la campagne, c'est à chaque seconde, l'intolérance écourte des vies. On s'est rendu compte au cours des dernières années avec nos campagnes choc, là, impact, comme tu dis, qui ne laisse pas indifférent. Le grand public, parce que c'est le public qu'on vise, hein, c'est le grand public pour faire changer les choses dans notre société, c'est de parler des violences que subissent les personnes LGBT au quotidien, les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, institutionnelles, puis médicales. Donc, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'étranger, ces violences-là existent, puis dans certains pays, c'est pire encore. Donc, l'importance de parler du 17 mai, c'est qu'on le sait, le 17 mai, c'est la journée en 1990 que l'Organisation de santé mondiale a enlevé l'homosexualité comme étant une maladie mentale. Donc, on lutte depuis quelques décennies seulement à faire en sorte que ce qui était pris comme une maladie, ce n'est plus une maladie. Donc, c'est assez de considérer les personnes LGBT comme des personnes qui n'ont pas droit à être heureux comme tout le monde.
C'est une campagne, moi, qui est venue me chercher. J'ai trouvé, parce que ça m'a rappelé des choses très dures, moi, comme personne que j'ai vécu personnellement, mais que j'ai aussi vu au cours des dernières années, ne serait-ce que cet attentat au Pulse. Il y a quand même... On est en 2022 et on fait encore face à ce genre de violence, d'intolérance. Est-ce qu'on va y arriver un jour?
On va y arriver parce que, premièrement, de plus en plus de personnes dénoncent ces violences-là. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais dénoncé leur agresseur parce qu'ils n'ont jamais pu, ils n'ont jamais eu les lois pour leur permettre de le faire. D'où l'importance qu'il y ait des lois qui soient au rendez-vous pour protéger les personnes LGBT, pour qu'elles puissent par la suite poser des actions pour que cessent ces violences-là. On le sait, on a plein de lois au Québec et il y a encore des violences, mais au moins il y a des outils, il y a des reconnaissances que certains crimes sont haineux envers les personnes LGBT, parce que c'est prémédité, c'est visé, envers notre communauté et ça ne devrait pas avoir lieu et place. Mais tu as raison, les violences physiques, on a vu cette semaine une personne justement à Montréal à la sortie d'une station de métro se faire attaquer parce qu'il était trop LGBT, trop gay, trop homosexuel. Il avait trop l'air homosexuel selon les propos d'un ami. Alors, il y a même des personnes qui peut-être ne sont même pas de la communauté LGBT qui se font attaquer juste parce qu'ils vivent, ils s'habillent comme ils veulent au Québec. Donc, des violences, là, ce genre de violences-là, il faut les dénoncer, il faut supporter ces personnes-là. Il y a d'autres organismes qui existent pour ça, des soutiens comme Interling, il y a des soutiens pour les victimes d'actes criminels, comme on semble être ce cas-là. Mais il y a, exemple... d'autres pays, il n'y a pas ça. On a depuis 2008 plus de 4000 personnes trans qui ont été assassinées dans le monde. C'est pour ça qu'on veut aussi que le grand public comprenne le pourquoi qu'on dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a effectivement le mariage est là, il y a plein de choses qui sont là, mais c'est bien beau de se marier, mais est-ce qu'on peut se promener dans la rue sans avoir peur de se faire attaquer? Il y a des choses comme ça qui, malheureusement, il faut continuer à sensibiliser, éduquer le grand public.
C'est terrible, hein? C'est terrible de voir qu'il y a plus de 4000 personnes trans tuées depuis 2008 dans le monde à cause de leur affirmation de genre.
En fait, je vais être plus exact, Arlette. C'est 4042 personnes trans qui ont été assassinées à cause de qui ils, elles ou ils sont. Dans le monde, depuis entre janvier 2008 et le 1er septembre 2021, ça, c'est ce qu'on a recensé, il y en a probablement plus que ça. 23 % des personnes trans aux États-Unis ont évité de s'adresser aux services de santé par peur de recevoir de mauvais traitements ou d'être humiliées.
C'est fou, ça.
4 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes lesbiennes, gays et bisexuels. 4 fois plus susceptibles de faire une tentative de suicide que chez les jeunes hétérosexuels. Et pas plus tard qu'en mars dernier, la jeune Anne-Sophie, 10 ans, s'est enlevée la vie.
10
en
ans.
En pleine crise d'identité et ayant subi de l'intimidation, elle n'aurait jamais eu l'aide dont elle aurait eu besoin. Cette jeune enfant trans, donc, a malheureusement décidé d'en finir avec la vie.
C'est horrible, vraiment, c'est
horrible. C'est au Québec, ça. C'est au Québec, ça.
Ah là là, ouais. Mon Dieu. Et donc, cette campagne vise à mettre cela de l'avant, mais d'une façon plus originale, enfin originale, plus brutale, oui. Peut-être, on va dire.
Ben, en fait, moi, vraiment, j'ai trouvé l'idée géniale. La Fondation a fait faire, en Suisse, une montre qui ne fonctionne pas aux 60 secondes, mais aux 54 secondes.
C'est ça, ouais.
On a retiré 6 secondes pour correspondre aux 6 couleurs du drapeau arc-en-ciel et pour symboliquement illustrer les vies ainsi écourtées des personnes des diversités, des orientations sexuelles et des affirmations de genre à cause de l'intolérance. Je vous propose à nouveau d'entendre Patrick Desmarais.
Allons-y. Notre campagne que tu as vue, c'est la campagne Choc, effectivement. Qui, avec des montres sont à 54 secondes plutôt que 60, parce que les 6 secondes manquantes, c'est les 6 secondes que les personnes LGBT perdent à chaque heure. Donc, à cause qu'il y a des...
OK, explique-moi ça. Elles perdent 6 secondes à chaque heure.
Bien, les tolérances écourtent la vie. Donc, on a voulu représenter cette intolérance-là. La personne, par exemple, qui se fait frapper... Elle a eu un civisme physique, mais elle va avoir des civismes psychologiques. Elle va peut-être arrêter de travailler. Donc, il y a tous les aspects qu'on parle de violence, ben, peuvent s'appliquer dans plein de situations. Donc, l'idée de prendre le drapeau arc-en-ciel, les 6 couleurs, et de le transposer en 6 secondes que perdent les personnes LGBT, c'est une façon de mobiliser les gens à ce qu'il y a des personnes qui vivent avec des moments perdus, finalement.
Ah oui, mais et les femmes, alors? Et les femmes aussi, est-ce que la lesbophobie fait autant de dommages? Pareil?
Oui, certainement. Puis là, je vais vous amener encore, tout le monde, dans une autre histoire qui parle de l'invisibilité des femmes en général.
Ah oui.
Ça existe, la lesbophobie. C'est pas beaucoup documenté, je dois dire. On commence à documenter. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là. Je le constate. Et je vais vous laisser entendre une personne, moi, que j'adore, puis qui est vraiment une façon de bien nous expliquer les choses, c'est Julie Antoine.
J'ai le plaisir de la recevoir dans une autre radio, oui.
Elle est la directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec.
Allons-y. Nicolas?
En fait, la lesbophobie, c'est une phobie spécifique entre l'homophobie et le sexisme. Donc, ça touche deux systèmes de discrimination spécifiques que les femmes de la diversité sexuelle vivent ou les personnes considérées comme lesbiennes. Parce qu'il y a des femmes cis, hétéros, qui ont des expressions de genre de style un peu plus butch lesbienne, qui se font aussi faire vivre de la lesbophobie du fait qu'elles ont une expression un peu qui ressemble à des lesbiennes, des archétypes un peu lesbiennes, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment l'entremise de deux systèmes de discrimination. Puis, rajoutons ça parfois des lesbiennes racisées, par exemple, donc vont vivre une triple discrimination en situation de handicap. Donc, toujours, on accumule justement ces systèmes d'oppression. Ce qui fait que ben, la lesbienne, finalement, elle ressort très peu. Et il ne faut pas dire, il y a une question d'éducation hein, dans tout ça, Denis Martin, c'est... Les femmes ont appris à souffrir dans la sphère privée. Les hommes n'ont pas appris à souffrir dans la sphère privée. Ils sortent dans la sphère publique. La sphère publique, leur appartient. Les femmes ont beaucoup de difficultés à aller dans la sphère publique pour dénoncer. Elles commencent de plus en plus, par exemple avec les mouvements MeToo et tout. Mais on voit encore dans l'actualité, notamment au Québec, là, présentement, ce qui se passe avec... je ne veux pas nommer de nom, là, mais avec plusieurs personnes alléguées d'agression sexuelle envers des femmes. Les femmes doivent se battre pour faire reconnaître qu'elles ont été violées ou qu'elles ont été abusées ou touchées par des personnes importantes. Puis encore, on questionne beaucoup le viol, on questionne beaucoup l'intégrité des femmes. Puis pour nous, ça nous remet énormément en question de voir présentement les parallèles qu'on peut faire au Québec versus ce qui se passe en Ukraine. La communauté mondiale a dénoncé les viols en Ukraine, cette arme de guerre pour décimer des femmes, décimer des populations. Donc, la communauté mondiale est outrée face à cette violence spécifique envers les femmes. Mais dans des plus petites sphères, par exemple, ce qui se passe ici au Québec, ben, il ne faut pas trop en parler. Les femmes doivent se défendre énormément. On remet en question leur vérité, en fait, leur personne. T'sais. Donc, c'est très compliqué. Les femmes de la diversité sexuelle, on a de la difficulté à s'exprimer au grand jour parce qu'on dirait que notre voix n'est pas prise au sérieux.
Mmh. Voilà. Donc, ça ne va pas si bien que ça. C'est, franchement, c'est décourageant.
Oui, ben j'ai vu tantôt comment tu as réagi quand on a parlé du fait que les femmes souffrent en silence. C'est souvent le cas. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas l'homme qui le dit, c'est ce qu'on vient d'entendre.
En fait,
c'est décourageant, puis non, il y a quand même des avancées importantes dans certaines parties du monde. Il faut quand même regarder les avancées qui se sont faites au Canada, qui se font en Europe. Puis moi, je pense que, ça va finir par atteindre ces endroits où c'est difficile pour les personnes de nos communautés. Mais c'est décourageant parce que des fois, on a l'impression qu'on fait des reculs. La Russie, le Brésil, la Jamaïque. Puis même récemment aux États-Unis, la Floride qui a une nouvelle loi qui interdit qu'on parle d'homosexualité dans les écoles, entre autres.
Ah oui, oui. Oui,
et puis même ici au Québec, si vous êtes une personne racisée ou immigrante, il y a beaucoup de barrières à l'acceptation, à l'intégration. Et... j'ai parlé à Javier Fuentes-Bernal, qui est aussi Javier Andrés, qui est de l'organisme Agir, qui soutient les personnes du LGBTQIA+, de la diversité culturelle et de l'immigration. Il va nous en parler.
Alors, on écoute.
Alors oui, en tant que personne qui appartient à la communauté LGBTQ+, et qui sont aussi racisées, émigrantes et ou migrantes, on porte plusieurs identités minoritaires. Alors, il faut souligner aussi qu'il existe encore plus de barrières qu'on doit surmonter, pas seulement en lien avec l'homo, lesbo, bi, transphobie, mais aussi avec des barrières telles que la xénophobie ou le racisme.
En quoi l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, la biphobie, en fait, toutes ces discriminations qui sont soulignées aujourd'hui, en fait, dans cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, en quoi c'est
particulier? Quels sont les exemples, vous pouvez me dire, pour les personnes que vous représentez, pour les personnes racisées ou migrantes qui font partie de nos communautés?
Alors, ce sont des discriminations qui sont assez présentes. Et comme vous l'avez bien mentionné, comme on se retrouve à l'intersection de plusieurs identités minoritaires, ça fait en sorte que, si on veut, ces discriminations s'intersectionnent, comme on dit, s'entrecroisent et se multiplient. Alors, ce sont des discriminations qui affectent beaucoup notre communauté parce que c'est comme si on essaie de retrouver une place, c'est comme si on essaie de générer un espace de sécurité. Et parfois, c'est difficile de les retrouver, même au sein de la communauté LGBTQ+, qui n'est pas migrante et qui n'est pas racisée.
Parlons de quelque chose d'un peu moins désolant. Cette journée a quand même des origines québécoises.
Oui, ben je vais
te faire fier de ça.
Je vais te faire plaisir avec quelque chose d'un petit peu moins. Parce que c'est vrai, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas drôle,
oui.
Mais il faut en parler. Mais oui, justement, cette journée, selon Wikipédia, mais en fait parce qu'on le sait, la journée est bel et bien originaire du Québec et non pas de la France. En fait, même Wikipédia donne l'origine à la France, excuse-moi. En fait, on doit l'idée à Laurent McKitchen.
Ah oui, tu avais écrit un livre sur lui.
Ah voilà. Alors, il nous a quittés en 2019. Et oui, effectivement, j'ai écrit sa biographie. Alors, je vais être transparent, là. Oui, Laurent McKitchen et la révolution gay et lesbienne du Québec aux éditions de l'Homme. Alors, en 2003, Laurent était président de la Fondation Émergence. Et c'est là qu'il a décidé de créer cette journée nationale, à l'époque, contre l'homophobie. Vous savez qu'en 2022, c'est la 20e journée contre l'homophobie. Et on a ajouté la transphobie avec les années. Et chaque année, donc, la Fondation Émergence, qui l'a créée aussi, Laurent, organise une campagne de sensibilisation. De nombreux organismes ont repris cette journée, qui est maintenant célébrée dans de nombreux pays. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pétition, justement, qui a été lancée par la Fondation Émergence, et ça va être un peu partout dans le monde, pour que l'ONU en fasse une journée internationale, qu'elle soit reconnue partout dans le monde, mondialement.
Okay.
Et donc, cette pétition, on peut la trouver sur la fondationemergence.org, si
d'accord.
On veut trouver. C'est sur change.org, et on peut la trouver là. Alors, le 17 mai, c'est une date importante, on l'a dit tout à l'heure, pour les personnes homosexuelles, parce que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé le 17 mai 90.
Qui veut dire que c'était hier quand même, hein, il y a seulement 32 ans.
Alors, t'imagines?
Donc, il y a une partie de ta vie...
J'ai été malade mentale pendant 29 ans.
C'est pas drôle, mais il y a une partie de ta vie où tu as été malade mentale. C'est quand même un truc de fou, 32 ans, tu te rends compte?
Ouais. Alors, le 17 mai, on a parlé un peu comme c'était aujourd'hui, mais le 17 mai, donc la semaine prochaine, je vous invite tout le monde donc à avoir une petite pensée cette journée-là pour les gens de la diversité qui vivent parfois des choses très, mais très difficiles.
Parfois et même souvent, on va dire. Hein? Donc, faut quand même le dire. On va se faire une pause musicale donc avec Corridor qui nous chante Topographe. C'est ça, Nicolas? Allez, on y va.
Thank you.
Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission. Bon, c'est vrai, c'était pas une émission qui donne tout le sourire, mais il y a des choses qu'il faut savoir.
Il faut savoir, qu'il faut dire, et qu'il faut... Puis je pense que d'en parler, ça fait du bien. Puis aussi, ben, tu me connais, Arlette, moi, je me prends pas au sérieux non plus dans tout ça, mais en même temps, tu sais, d'avoir le peu... de dire aux gens, voici la réalité des
c'est
gens.
Ça. C'est ça. Et au moins... Si on fait rien, eh ben on sait qu'on fait rien. On est conscient qu'on fait rien. Voilà.
Mais en même temps, je vous dis, pour ceux qui sont à Montréal qui nous écoutent, il fait beau aujourd'hui.
Ah oui, il fait très très beau.
Et, écoute,
très très beau.
T'as vu? T'as vu?
Alors oui, il a déjà sorti le short pour vous dire. Alors on remercie Denis Nadeau bien sûr d'avoir été avec nous. Donc pour cet ouvrage, un jour ma tête a plié mes genoux. Et puis sachez, l'ouvrage est magnifique et en plus de ça, c'est pour les impatients, donc c'est important. N'oubliez pas non plus le 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, bien que j'ai toujours envie de dire on s'en fout, c'est pas le 17 mai, c'est tout le temps qu'il faut y penser. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça.
Oui,
et,
tout à fait.
Merci à toi Denis Martin, on se retrouve le mois prochain pour une
avec
nouvelle aventure.
Avec grand plaisir.
Et puis ben, merci Nicolas Wartmann qui est toujours
merci
là pour
Nicolas.
La technique et les chansons. Et puis surtout, mon plus gros merci va à vous toutes et vous tous qui nous suivez, qui nous écoutez. On vous souhaite une excellente soirée et puis on vous dit à demain pour une nouvelle aventure. Au revoir.